Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous, bonsoir Isabelle. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous au 3210. Ce soir, la une, l'hôpital est-il en train de s'effondrer? 1 lit sur 5 est fermé dans notre pays, faute de personnel. Résultat d'une étude flash et choc, le chiffre interpelle. Les recrutements sont au point mort et donc les patients trinquent. Les hôpitaux de Paris ont choisi RTL pour réagir. Rémi Salomon, chef de service à l'hôpital Necker, président des commissions médicales de la PHP, sera notre invité de 18h15. Les autres titres de l'actualité maintenant, à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Les suites du féminicide de Mérignac en mai dernier. Information RTL, 7 policiers devront s'expliquer en conseil de discipline, notamment le plus haut gradé du département, pour les rater dans le suivi des plaintes déposées par la victime. Dans ce journal aussi, Paris qui hausse le ton face à Londres sur la pêche et des entreprises en Espagne qui suspendent leur production face à la flambée des prix de l'énergie. Les courses dans le Quintet Plus à Anguin-Soisy, il fallait jouer le 3, le 4, le 12, le 14 et le 13.
Après 18h30, les dessous de l'actu, les dessous du combat pour permettre aux femmes d'accéder au très haut poste dans les grandes entreprises, peut-être bientôt des quotas pour faire enfin bouger les lignes. Ensuite, laissez-vous tenter dernière avec Germinal, la série événement à la télé ce soir. 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes instructives et curieuses avec Cyprien Signier, l'équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu ?
Ce soir, une enquête fascinante sur les dessous d'Internet. Une plongée 20 000 lieues sous les mers. Au menu également, le patron LR, Christian Jacob, qui se frotte les mains, et l'histoire du premier distributeur automatique de billets.
À 19h15, nous débattrons, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet. On reviendra notamment sur la nuit d'émeute à Alençon en Normandie. Et puis des points réguliers sur le temps avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Quelle est la tendance?
Globalement, encore beaucoup de soleil demain, il faudra bien en profiter, ça ne va pas durer.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
C'est un chiffre qui interpelle, dont on vous parle depuis ce matin. Aujourd'hui en France, 1 lit d'hôpital sur 5 est fermé faute de personnel.
Le chiffre est impressionnant. Ses implications au quotidien le sont tout autant. Et c'est à cette réalité, pour les soignants, pour les patients, que l'on a voulu s'intéresser ce soir.
Bonsoir Bertrand Frachon. Vous êtes à Givors pour RTL, où les urgences de l'hôpital sont désormais fermées la nuit, et ce jusqu'à la fin novembre.
À l'entrée des urgences de l'hôpital de Givors, un panneau annonce qu'elles sont désormais fermées la nuit et invite les patients à faire le 15. Une situation directement liée au manque de personnel médical que dénonce Marion Turquetta, infirmière et syndicaliste CGT. Et selon elle, il n'y a pas que les urgences nocturnes qui sont impactées.
Depuis la rentrée, il y a 11 lits de médecine qui est actuellement fermé sur l'hôpital faute de présence médicale. Il y avait un contrat sur l'été qui n'a pas pu persister. Il y a également le SSR polyvalent où il y a 15 lits de rééducation qui sont fermés depuis quelques mois. Ça prouve bien que la fonction publique a un problème et que le gouvernement doit faire autre chose que ce qu'il a prévu sur le Ségur. Et déjà l'augmentation des salaires par rapport au privé, par rapport à l'Europe, nous sommes vraiment trop bas.
Du côté des patients rencontrés aujourd'hui devant les urgences, c'est l'inquiétude de perdre un service de proximité.
Je pense que c'est, pour nous, c'est un sacré handicap. Hein. Parce que après nous, c'est Lyon Sud ou Vienne. Et moi qui habite Givors, ça me fait quand même du trajet.
Soit pour Lyon, 25 km et 40 minutes en voiture. Contactée par téléphone, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité répondre à une interview, affirmant vouloir se concentrer sur le recrutement de nouveaux praticiens.
Le reportage à l'hôpital de Givors de Bertrand Frachon pour RTL.
Et dans une dizaine de minutes, la première réaction des hôpitaux de Paris, donc à ce chiffre qui interpelle. Rémi Salomon, président de la commission médicale des établissements de la PHP, sera notre invité sur RTL.
L'hôpital d'autant plus sous tension que la crise du Covid n'est pas terminé. Le nombre d'hospitalisations ne baisse plus désormais. Par ailleurs, l'épidémie de bronchiolite pour les plus petits poursuit sa progression. 11 des 13 régions sont désormais concernées. RTL vous le révélait cet après-midi. 7 policiers sont donc convoqués devant le conseil de discipline dans l'enquête sur le féminicide de Mérignac. En mai dernier, Chahinez avait été brûlée vive par son compagnon, après pourtant le dépôt de plusieurs plaintes. Et ce sont ces défaillances qui donnent lieu à des convocations, et elles remontent, Guillaume Chiez, jusqu'au plus haut haut niveau de la hiérarchie.
Oui, puisque le policier le plus haut gradé du département est lui-même convoqué devant le conseil de discipline. Le directeur départemental de la sécurité publique de Gironde devra notamment s'expliquer sur le manque de remontée d'informations concernant l'enquête sur le mari de Chaynaise. Dans ce dossier, Gérald Darmanin avait promis des sanctions à tous les niveaux de la chaîne de responsabilité. Et c'est dans ce sens que le directeur de la police nationale a tranché en fin de semaine dernière. Plusieurs possibilités s'offraient à lui. Il aurait pu suivre les préconisations de l'IGPN, la police des polices, et sanctionner directement les fonctionnaires. Une procédure moins lourde et potentiellement moins sévère. Mais non, le directeur a décidé de renvoyer les 7 policiers en conseil de discipline. Ils auront alors l'occasion d'expliquer clairement leur rôle dans les dysfonctionnements qui ont été mis à jour par les différentes inspections qui se sont penchées sur le féminicide de Mérignac. Les 7 policiers en cours des sanctions pouvant aller du simple avertissement à la révocation.
Les précisions de Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. Et après la décision de ces convocations et ces explications aussi en perspective de ces 7 policiers, la réaction de maître Julien Plouton, avocat de la famille de Chaynaise.
Moi je serai, au-delà des sanctions qui seront prononcées, très attentif notamment aux explications qui seront fournies par les fonctionnaires de police qui sont convoqués dans ce conseil de discipline. Ça m'intéresse également d'avoir leurs explications sur les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à exercer leur mission. Ce dossier doit conduire véritablement à sensibiliser les enquêteurs, notamment sur cette réactivité absolue quand des faits de telle nature sont signalés à leur service. Voilà, on ne peut pas se contenter de faire des investigations qui s'étalent dans le temps. Il faut une réactivité rapide. Ce n'est que l'interpellation qui permet de mettre fin ou de faire obstacle à un nouveau passage à l'acte.
Maître Julien Plouton, joint pour RTL par Philippe Demaria.
RTL, 18h06. 6 jours. La France laisse désormais 6 jours au Royaume-Uni pour revoir à la hausse le nombre de licences accordées aux pêcheurs français dans ses eaux. Au-delà de ce délai, les premières sanctions vont tomber.
Oui, ça fait des semaines que Paris menace, accusant Londres de ne pas respecter l'accord sur le Brexit. Aujourd'hui donc, un calendrier a été fixé, des sanctions précisées. À l'issue d'un conseil des ministres au cours duquel Emmanuel Macron s'est agacé du comportement des Britanniques, Vincent Derosier.
Oui, la table du conseil a tremblé ce matin, exaspéré par l'attitude des Anglais selon un ministre. Emmanuel Macron a demandé au porte-parole Gabriel Attal de hausser le ton.
Nous ne laisserons pas la Grande-Bretagne s'essuyer les pieds sur l'accord Brexit qui a été conclu. Il manque quasiment 50% des licences auxquelles nous avons droit. C'est une situation qui n'est pas acceptable et je le dis clairement, notre patience atteint ses limites aujourd'hui.
L'ultimatum est donc là. Si Londres reste inflexible, les sanctions tomberont graduellement à partir du 2 novembre. Contrôle douanier et sanitaire systématique sur les produits britanniques, interdiction de débarquement ou contrôle des camions. D'autres sanctions sont prévues si cela ne suffit pas. Le gouvernement envisage par exemple de priver d'électricité certaines îles anglo-normandes. Il s'agit de multiplier les tracasseries administratives, explique un membre du gouvernement. Emmanuel Macron, lui, verra Boris Johnson dimanche en tête-à-tête à Glasgow à l'occasion de la COP26, ultime face-à-face pour trouver un compromis avant que les premières sanctions ne tombent mardi prochain.
Le 2 novembre donc, merci Vincent Derosier. Le ton qui monte aussi entre Bruxelles et Varsovie, la Pologne, condamnée aujourd'hui par la justice européenne, a payé une astreinte d'1 million d'euros par jour pour atteinte à l'indépendance des juges dans le pays.
Allez, une petite pause et dans un instant la suite de ce journal. On va vous emmener en Espagne où, à cause de la flambée des prix de l'énergie, eh bien certaines entreprises se retrouvent tout simplement à l'arrêt. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, 18h09, vous écoutez RTL. Des prix qui flambent et des entreprises qui ne peuvent plus suivre. L'Espagne confrontée dans la douleur à la hausse des tarifs de l'énergie.
Plus 40% d'augmentation pour les particuliers et pour les entreprises les plus gourmandes en électricité ou en gaz. La facture devient tellement salé que plusieurs dizaines d'entre elles ont ralenti leur production, voire même tout arrêté. Les précisions à Barcelone d'Aurélie Chamerois pour RTL.
300% d'augmentation du prix au mégawattheure en un an pour les industries à forte consommation électrique. La compétitivité et même la rentabilité ne sont plus du tout assurées. Plusieurs d'entre elles ont donc décidé de débrayer, dont Cinedor, qui compte plusieurs usines sidérurgiques à travers l'Espagne. Elle a annoncé qu'elle arrêterait la production pendant 20 jours au cours des 3 prochains mois. Plusieurs autres sociétés ont aussi stoppé leur production, mais la majorité des usines optent pour un ralentissement. Au Pays Basque, ArcelorMittal a mis en place un système pour réaliser de courts arrêts de production aux heures où l'électricité est la plus chère. Mais si le problème persiste, économistes et syndicats craignent des délocalisations. Pour le gouvernement espagnol, la hausse du prix de l'électricité est devenue un problème de premier plan. Il a annoncé cette semaine des aides financières pour les particuliers, mais rien encore pour les entreprises.
Aurélie Chamerois à Barcelone pour RTL. En France, le prix du litre de fuel domestique a atteint un nouveau record la semaine dernière, plus 2 centimes à 1,07€, plus 55% d'augmentation en un peu plus d'un an. On l'a appris cet après-midi, les syndicats lèvent l'appel à la grève sur les lignes du TGV Atlantique pour ce week-end et puis toujours sur les rails à la gare du Nord à Paris. Fin de l'alerte à la bombe, le trafic reprend progressivement. Au chapitre de l'économie, ces bons chiffres du chômage au troisième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 5,5%.
Il continue de défrayer la chronique. Hors du terrain, nouvelle péripétie pour un joueur du PSG.
Après les cambriolages pendant les matchs, après les querelles amoureuses d'Icardi, finalement rabiboché d'ailleurs avec son épouse, cette fois Valentin Boissé, c'est Ander Herrera qui a été victime hier d'un vol dans le bois de Boulogne.
Et oui, un vol sur le chemin du Parc des Princes. Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, s'est arrêté vers 20h, un feu tricolore au volant de sa voiture. Donc, il est dans le bois de Boulogne, une prostituée en profite pour monter à bord. Elle s'empare du portefeuille ainsi que du téléphone, deux éléments posés sur le tableau de bord et donc visibles de l'extérieur. Son agresseuse lui demande ensuite de la déposer quelque part. Il obtempère, la dépose, puis appelle la police. Le préjudice est estimé à 200€. Les réseaux sociaux se sont tout de suite emparés de l'affaire qui se déroule dans un haut lieu de la prostitution parisienne. Mais l'entourage du joueur tient à mettre les choses au clair auprès de l'AFP. Si le joueur avait quelque chose à se reprocher, il n'aurait pas prévenu la police.
CQFD, merci Valentin Boissé. On prend les mêmes et on recommence avec, espérons-le, plus de foot et pas d'incident. Retour ce soir sur le terrain pour Nice et Marseille qui rejouent à huis clos en terrain neutre à 3, leur match interrompu fin août pour des débordements. Coup d'envoi à 21h à suivre en fil rouge ce soir sur RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec une entreprise généreuse, une entreprise qui produit des leggings féminins aux États-Unis, évaluée plus d'$1 milliard après un accord avec une société d'investissement. Et du coup, eh bien, la patronne a décidé de récompenser ses salariés un billet d'avion première classe pour n'importe quel endroit du monde. $10 000 d'argent de poche, évidemment, vous imaginez la réaction.
Ils embauchent dans le legging ou pas? Comment ça se passe, Marion?
Allez savoir.
Très bien, merci.
C'est le moment de postuler.
On attend les précisions. À tout à l'heure, Marion.
La météo.
La météo,
ça
maintenant.
Ça vous perturbe les
sans
leggings?
Transition.
Hein,
ouais, non, évidemment. Pas les leggings, des tels cadeaux, moi ça me perturbe. Dites-nous tout.
Elle est belle cette journée de demain. Alors, comme aujourd'hui, il y aura encore beaucoup de grisailles, de bancs de brouillard le matin, mais une fois dissipé, ben, le soleil va s'imposer sur la majeure partie du pays. Quelques bémols tout de même. L'arrivée d'une perturbation par la Bretagne. Donc, un ciel couvert dès le matin, quelques gouttes l'après-midi, avec du vent sur les côtes de la Manche. Un ciel chargé également toute la journée avec quelques faibles pluies autour du golfe du Lion, voire un coup de tonnerre dans l'après-midi sur les côtes. Et puis en Corse, où ça restera bien voilé toute la journée, ce voile gagnera le sud des Alpes dans l'après-midi. Mais sinon, vraiment partout ailleurs, un très beau soleil. Les températures, les minimales, elles seront fraîches encore demain matin. Mais les maximales, elles vont remonter encore. On sera au-dessus des normales. 15 à Strasbourg, 17 à Lille, 19 degrés à Caen comme à Lyon et Paris. On devrait avoir 14, je rappelle, à cette période de l'année. 22 à Bordeaux et Marseille et 23 à Auch.
Merci Peggy. Une petite pause et ensuite cette question sur RTL. Est-ce que notre hôpital est à bout de souffle? Le chiffre claque, un lit sur cinq est fermé, faute de personnel dans notre pays. Qui a encore envie d'enfiler une blouse blanche? Quelles conséquences pour les patients? Nous allons nous interroger avec vous au 3210 et avec Rémi Salomon, notre invité, président des commissions médicales des hôpitaux de Paris. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée. Vous écoutez donc RTL et ce soir, nous nous interrogeons, nous nous inquiétons aussi. Est-ce que notre hôpital est en train de craquer? Écoutez bien ce chiffre, tendez l'oreille. Un lit sur cinq est aujourd'hui fermé en France dans nos CHU, nos CHR, faute de personnel. C'est le résultat d'une étude flash dirigée par le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Et les données des hôpitaux de Paris confirment cette pénurie. La PHP qui a choisi RTL pour réagir ce soir. Bonsoir Rémi Salomon.
Bonsoir.
Vous êtes pédiatre, chef de service à l'hôpital Necker et vous présidez la commission médicale de la PHP. Vous confirmez ces chiffres. On découvre que dans certains de vos hôpitaux, Garches par exemple, il y a jusqu'à 30% de lits fermés alors qu'ils pourraient être potentiellement disponibles.
Absolument, donc c'est variable effectivement d'un hôpital à l'autre, mais c'est beaucoup. C'est nettement plus que d'habitude à la même époque. C'est à peu près le double de lits fermés à la même époque qu'il y a deux ans. On compare une année incomparable à l'année dernière, c'était un peu différent.
Donc c'est deux fois plus de lits fermés que par rapport à l'avant-Covid. Pour les patients qui arrivent, quelles conséquences? Est-ce que vous avez des exemples? On lit ce matin dans Libération qui dévoile ces chiffres, des témoignages qui sont franchement glaçants. Une mamie de 92 ans, 16 heures sur un brancard, faute de lit, qui n'a pas pu aller aux toilettes. On en est là, Rémi Salomon?
Ça peut être une conséquence. Hein. Un service d'urgence a une affluence importante. Les patients qui doivent être hospitalisés aujourd'hui attendent parfois plusieurs heures avant de trouver une chambre disponible. Ils sont parfois transférés dans un autre hôpital car l'hôpital dans lequel ils sont arrivés n'a absolument aucune chambre. Ça arrive malheureusement souvent aujourd'hui.
Vous manquez de quoi essentiellement? D'infirmiers, de médecins, d'un peu de tout? Il y a 1000 postes d'infirmiers vacants sur Paris, 30 embauches seulement en octobre. Vous n'arrivez pas à recruter?
C'est exactement ça. On manque essentiellement d'infirmiers, pas que, mais c'est le manque le plus important, c'est les infirmiers. Ça, c'est clairement... Alors, on a, comme vous l'avez dit, un recrutement qui est très faible cette année, beaucoup plus faible que les autres années. On a eu des départs. L'année dernière, pendant le Covid, les départs étaient bloqués par ce que l'on appelle un dispositif de plan blanc. Et quand le plan blanc a été levé à la fin du printemps, eh bien, un certain nombre de personnels, infirmiers notamment, ont quitté et n'ont pas été remplacés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a un manque important. Alors ce manque, il ne date pas d'hier. Hein. Ce que l'on vit aujourd'hui dans les hôpitaux à la PHP, mais un peu partout en France, c'est un problème qui remonte à plusieurs années. Le fruit, en fait, d'une politique où on a un budget qui ne correspondait pas aux besoins des hôpitaux pour recruter le personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a franchi une étape supplémentaire avec cette année. Une particularité, c'est que le recrutement est particulièrement faible. Et puis, un certain nombre de diplômés ont choisi de ne pas aller à l'hôpital, d'aller exercer ailleurs. On a un petit sujet, c'est les centres de vaccination. Ça, c'est vrai que c'est une, je dirais quelque part, aujourd'hui un peu une anomalie hein, que l'on observe. On a pas mal de soignants qui sont mobilisés sur des centres de vaccination. Oui. Je ne sais pas précisément ce que ça représente, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse les récupérer, qu'ils puissent venir à l'hôpital là où on en a vraiment besoin aujourd'hui. Et puis d'autres se posent des questions. Est-ce que je vais travailler à l'hôpital? Et c'est vrai que les conditions de travail dans les hôpitaux font que certains hésitent.
Ça veut dire aussi que, certes, le Covid a bon dos et la crise ne date pas d'hier, mais le Covid a été un élément aggravant, déclencheur, avec des soignants qui finalement finissent par quitter le navire et on sent que les 10 milliards d'euros d'augmentation de salaire du Ségur de la Santé ne suffisent pas à les retenir.
À l'évidence, vu ce qu'on constate aujourd'hui, non, ça ne suffit pas. C'est déjà ça. Hein, y a des revalorisations salariales qui sont bienvenues compte tenu du niveau de rémunération des infirmiers et des paramédicaux en général. Donc là, on se rapproche un peu de la moyenne européenne, mais on est encore en dessous. Donc c'est déjà ça, mais c'est probablement pas assez. Et notamment pour le travail de nuit et de week-end. C'est ce qu'on appelle la permanence des soins. Les hôpitaux fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, hein, les jeunes, et pas que les jeunes, se disent que travailler la nuit, enfin, c'est pas qu'ils se disent, c'est qu'ils vivent. Il y a une pénibilité. Hein, et probablement, ce travail-là n'est pas assez valorisé. Ça, c'est vraiment ce que j'entends partout, partout. Donc, les conditions de travail, c'est les effectifs aussi. Combien de patients une infirmière doit à sa charge? Et si c'est trop, ben, c'est compliqué. Elle n'arrive pas à faire correctement son travail et ça lui pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème pour les patients, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça lui pose un vrai problème, hein, ce travail qu'elle n'arrive pas à faire.
Restez avec nous, Rémi Salomon, parce qu'on l'entend, la tension est vraiment extrême en ce moment dans le public, mais même dans le privé, c'est compliqué. On va le constater avec un appel d'une auditrice de RTL. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Vous dirigez, vous, une clinique à Lyon et vous êtes, vous aussi, confrontée à cette pénurie de soignants.
Tout à fait. Il me manque, pour les services, il me manque actuellement 12 12 équivalents temps plein d'infirmiers. Et au bloc opératoire, il m'en manque 6, soit le tiers de mon effectif. Donc j'ai 25 lits fermés.
Faute de personnel.
Faute de personnel.
Et on imagine que c'est un terrible casse-tête en termes de planning pour vous.
Alors c'est un casse-tête. Et puis on est obligé de différer des interventions ou des hospitalisations de façon à pouvoir continuer à assurer ce qui est de l'urgence. Et si possible, de ne pas laisser, par exemple, 16 heures une personne âgée aux urgences, comme vous avez cité, qui peut arriver.
Donc il y a encore des déprogrammations de soins, faute de personnel.
Exactement.
Et les raisons de la pénurie, c'est quoi ? Là aussi, il y a de la démotivation, notamment depuis la pandémie.
Ah oui, oui, on a des gens qui ont quitté le métier, on a des promotions qui ont moins été pleines, et on recrute, on n'arrive pas à trouver des gens, et surtout du personnel de nuit. Je rejoins tout à fait le professeur Salomon, c'est qu'on a des gens n'ont plus envie. Je pense aussi que la crise a fait réfléchir au centre d'intérêt, à la qualité de vie au travail, et le travail de nuit, c'est difficile.
Merci Claire pour votre témoignage au 3210, vous la directrice de clinique du côté de Lyon. Rémi Salomon, je reviens vers vous pour le public. En tout cas, dans les colonnes de Libé, Olivier Véran, le ministre, reconnaît que les 183 € net en plus sur la fiche de paie ne suffisent pas aujourd'hui face à cette crise de la santé. On ne réécrit pas l'histoire en un claquement de doigts. Je n'ai pas de médecin caché dans les placards, dit-il. Quand on lit ses propos, on comprend que la crise va durer. Est-ce que vous êtes capable d'absorber une cinquième vague potentielle de Covid ou même une vaguelette dans ce contexte de tension, là en ce moment, alors que les contaminations remontent?
Je ne vous cache pas qu'on est inquiet. Je ne pense pas qu'il y aura une cinquième vague qui ressemble aux trois premières et même à la quatrième. On est quand même bien vaccinés. Mais même si ça montait un peu, compte tenu de ce que nous vivons et de ce que nous venons de décrire, ça peut être compliqué. Et moi, en tant que pédiatre, je peux vous dire que pour la bronchiolite, l'épidémie de bronchiolite hivernale, qui commence à commencer un peu plus tôt, on est déjà en difficulté. On est inquiet. Ouais. Vous avez prononcé le mot de déprogrammation. Il est possible qu'on soit obligé de reporter certains soins et avec toutes les conséquences que l'on a vues pendant la crise Covid.
Dans les colonnes de Libération, justement, l'un de vos collègues des hôpitaux de Marseille appelle un plan Marshall de l'hôpital. Il y a déjà eu le Ségur de la santé. Il faut un plan Marshall, Rémi Salomon.
Ah, je pense que là, on ne peut pas se contenter de rustines. Le Ségur, on en a parlé, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut beaucoup plus. On a besoin de plus d'effectifs. On a besoin de mieux payer la nuit, le week-end et puis de manière générale. Mais les effectifs, ça veut dire beaucoup de monde. On est arrivé aujourd'hui, finalement, on a laissé les choses se dégrader. Donc on est arrivé aujourd'hui à un niveau qui nécessiterait de, si on veut remonter la pente, effectivement, il faut quelque chose de très important. Donc je ne sais pas si c'est un Marshall, un choc d'attractivité. Il faut quelque chose de très fort. Ça ne peut pas être une rustine.
Ça veut dire que quelque part, le rendez-vous du Covid, où toute la France s'est rendue compte de l'importance du secteur de la santé, a été raté?
Je ne sais pas si ça a été raté. Ce que je sais, c'est que c'est un sujet qui est majeur pour notre société, d'être capable tout simplement de soigner les gens. Quand je le dis, ça paraît être une évidence, mais je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une période de campagne électorale, je pense que ce sujet-là va être un sujet important pour les gens, de juste savoir s'ils ont un système hospitalier et de manière plus générale un système de santé qui est capable de les prendre en charge correctement quand ils sont malades et quand ils en ont besoin.
Merci Rémi Salomon, président de la commission médicale des hôpitaux de Paris, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. On rappelle donc ce chiffre saisissant que l'on vient de commenter, 20% des lits fermés faute de personnel dans nos hôpitaux. Merci d'avoir été notre invité sur RTL.
Je vous en prie.
Vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr.
Allez, RTL Soir continue. On va marquer une très courte pause et ensuite il y aura vos dessous de l'actu. Peut-être bientôt des quotas pour secouer nos entreprises et permettre aux femmes d'accéder enfin aux postes à haute responsabilité. Et puis dans Laissez-vous tenter dernier, on va allumer la télé pour Germinal, la série événement sur France Télévisions. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Il est 18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, eh bien on va refaire un petit point pour ceux qui ont raté le journal de Marion Calais. Elle revient en deuxième séance avec les grands titres de l'actualité.
Ils devront s'expliquer sur les défaillances dans le suivi et les remontées de plaintes déposées par Chahinez, la jeune femme tuée par son compagnon à Mérignac en mai dernier. Information RTL, 7 policiers sont convoqués devant le conseil de discipline, dont le plus haut gradé du département. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui une enquête nationale sur les fermetures de lits à l'hôpital, 1 sur 5 selon une étude dévoilée ce matin. Et puis après l'interruption du match et les débordements débordement. Nice-Marseille se retrouve ce soir pour rejouer le match de la fin août. Rencontre en terrain neutre et à huis clos à 3 à partir de 21h.
Merci Marion, bon match, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, très belle journée demain.
Exactement comme aujourd'hui, Julien. Alors évidemment, après la dissipation de quelques grisailles matinales et brouillards, surtout au nord, quelques exceptions tout de même. Le ciel sera plus nuageux sur la Bretagne toute la journée avec quelques gouttes sur le Finistère dans l'après-midi et du vent sur les côtes de la Manche. Pareil vers le golfe du Lion, des nuages, un peu de pluie, voire un coup de tonnerre sur le littoral l'après-midi. Puis en Corse, où ça restera bien nuageux toute la journée, des nuages qui vont gagner les Alpes du Sud dans l'après-midi, mais partout ailleurs. Il fera très beau, frais le matin, mais doux l'après-midi, de 16 à 20 degrés au nord et de 18 à 23 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir, les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, les dessous d'un combat. Comment permettre aux femmes d'accéder aux très hauts postes dans nos grandes entreprises? Des postes bien souvent, malheureusement, chasse-gardés des hommes. Le Sénat examine en ce moment même une proposition de loi LREM pour instaurer des quotas. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Quel est l'objectif du texte?
Il est très simple. En fait, en 2027, Julien, il faudra au moins 30% de femmes dans les comités de direction et les comités exécutifs. En 2030, ce sera même 40%. Si les entreprises elles ne respectent pas cette loi, elles se verront infliger une amende égale à 1% de leur masse salariale. Par ailleurs, cette nouvelle loi ne concernera que les entreprises de plus de 1000 salariés.
Pourquoi cette loi est nécessaire maintenant? Quelle est la situation aujourd'hui?
Eh bien, dans le SBF 120, vous savez, ce sont les 120 plus grandes entreprises cotées en bourse, ouais, en France, eh bien, les femmes, elles occupent 43% des postes d'administrateurs. C'était à peine 12,5% en 2010. En revanche, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres pour les cadres dirigeants, ces personnes-là dont on parle. Il y a à peine 26% de femmes qui sont dans des comités exécutifs aujourd'hui. Un chiffre qui a évolué dans le bon sens, certes, mais qui reste bien en dessous de nos voisins européens.
Alors, quand on parle de quotas, ça fait toujours débat. Est-ce, oui, que c'est la bonne stratégie pour faire évoluer les entreprises?
Ça peut, oui. On a l'exemple, en fait, de la loi Copé-Zimmermann, entrée en vigueur il y a maintenant 10 ans dans notre pays pour la féminisation des conseils d'administration, avec les bons chiffres que je viens de vous donner. Nathalie Bala, la directrice de la Redoute, était pourtant mitigée.
Moi, j'étais vraiment opposée au quota parce que j'estimais que les femmes étaient compétentes et qu'elles n'avaient pas besoin de quotas pour s'imposer. Le fait est que les quotas ont permis d'accélérer, voilà, la montée en puissance en fait des femmes dans des positions dirigeantes. C'est une très très bonne chose.
Et cette loi, bien qu'elle soit applicable en 2027, devrait produire rapidement ses effets, comme l'explique Isabelle Von Horn du cabinet Conviction RH.
Elle va permettre de s'assurer in fine que les comités exécutifs et les comités de direction soient féminisés. Vu le point de départ, on va de toute manière devoir s'y mettre dès aujourd'hui, si la loi est votée.
Et selon le Haut Conseil à l'égalité, les quotas sont effectivement un succès, à condition bien sûr qu'il y ait un suivi.
Les dessous de l'actu avec les explications ce soir pour RTL d'Arnaud Touche. Merci beaucoup Arnaud.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
RTL, bonne fin de journée, 18h33 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et bonne fin de journée avec RTL. Voici peut-être la parenthèse que vous attendiez. Les bons conseils chaque soir de la bande de LVT dans Laissez-vous tenter dernière. Pour bien occuper vos soirées, on va l'occuper devant la télé. Bonsoir Isabelle Morini-Bosque.
Bonsoir Julien.
On a le choix ce soir. On commence par la France qui a un incroyable talent. C'est sur M6. Petit,
oui,
extrait.
Avec toujours l'alternance de gens qui ont vraiment un incroyable talent et ceux qui disent en avoir un sans l'avoir vraiment. Alors dans la première catégorie, vous verrez Julien, une ballerine sur les pointes et sur la tête de son partenaire. Oula. Lui-même sur une échelle à 3 mètres de hauteur. Vous visualisez?
Oui, 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 ça donne le vertige, voilà, un peu.
Exactement, et dans la seconde, je vous recommande le couple amateur du boudin et qui chante en étant justement boudiné dans des costumes improbables, mais je me refuse à leur entailler un costume parce qu'ils sont vraiment très sympas. Donc ça, c'est dans la France un incroyable talent sur M6.
Sur M6.
J'en reparlerai, hein, préparez-vous.
L'événement, c'est sur la 2, Germinal, nouvelle adaptation du roman de Zola.
Et racontant au 19e siècle la misère absolue des mineurs et de leurs familles asservies par des compagnies ayant droit de vie et surtout de mort sur ces nouveaux esclaves manquant de tout, surtout du principal. Un nouveau venu de l'île et revenu de tout, Étienne Lantier, va les pousser à la grève, d'où la réaction du patron Hennebeau, joué par Guillaume de Tonquédec, un patron très dangereux, très cocu, très hétéromane, là en présence de son neveu.
Quand je te dis que la colère gronde, on est allé trop loin.
Lantier, il a dit?
Oui, c'est ça, Étienne Lantier, mais c'est pas lui le problème. On leur fait courber les chines encore et encore. À force, la grève va éclater et ça aura des conséquences pour la mine.
N'exagérons rien. Une grève courte, ça nous permettrait d'écouler nos stocks qui débordent.
Et oui, Germinal, c'est 6 épisodes pour 12 millions d'euros et une brochette d'excellents acteurs. Louis Pérez Lantier, Samy Bouadjila, le patron humaniste qu'il faut broyer, Natacha Lindiger, femme du patron et maîtresse femme, ou surtout maîtresse du neveu de son mari. Hein. Et encore Alix Poisson, Thierry Godard,
ça, c'est le couple Méheu qui, bousculé, va basculer dans le conflit. Ils sont tous formidables dans cette fiction ayant nécessité 2400 figurants, 700 costumes, 10 décors conçus par 100 techniciens ayant acheté à la Pologne 22 tonnes de charbon et 5 de boue. Et oui, j'ai un double bémol. Il faut tout de même avoir un gros moral au départ pour en conserver un petit à l'arrivée. Et beaucoup de scènes étant tournées dans une mine forcément sombre avec des personnages forcément noircis, on voit pas toujours qui est qui et qui fait quoi, ce qui finit par obscurcir aussi la compréhension. À part ça, c'est évidemment très fort. Et côté info sur l'époque, c'est, si j'ose dire, une mine.
Ah oui, effectivement, c'est particulièrement documenté, on l'imagine. Et c'est évidemment l'événement du soir, c'est sur France 2, Germinal, nouvelle adaptation du roman d'Émile Zola. Merci beaucoup pour vos conseils avisés, chère Isabelle Morini-Boss.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, la suite dans RTL Soir, c'est bien entendu On défait le monde. On va marquer une courte pause avant de retrouver Cyprien Sini, Céline Landreau, Arthur Asquin, Laurent Tessier qui s'installent en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Après la panne géante chez SFR, vous allez l'entendre. Votre monde, notre monde, ne tient plus qu'à un fil. À tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.